Aujourd'hui, la sixième épisode, c'est une émission spéciale. On fait un test. Donc aujourd'hui, on a remplacé le fou du roi d'une émission populaire qui est très écoutée à Radio-Canada. On ne va pas la nommer, tout le monde en parle, qui avait un fou du roi. Et nous, ce qu'on avait besoin, c'était quelqu'un qui va calmer le fou, qui est votre animateur. Alors, on a un tout nouveau co-animateur d'un expresso ou un espresso. Espresso avec Angelo. Et je vous présente M. Francis Parent-Valiquette.
Merci, Angelo. C'est un honneur pour moi de co-animer avec toi aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Je vais essayer de calmer le jeu. Je vais essayer de juste bien faire ma job.
Pour que les gens soient au courant, dans le fond, là. Mm-hmm. T'es un podcasteur.
Exactement.
Fait que Francis, c'était aussi le producteur de l'émission Un Espresso avec Angelo.
Je le suis plus.
Et je viens de t'annoncer que non. En fait, je voulais voir, Francis, c'était quoi la dynamique de co-animer avec quelqu'un que j'adore écouter. Francis qui anime le Centre au Chaud, que je suis un fan, Francis. Et ça me calme. Puis j'ai trouvé que les cinq premiers épisodes, ils étaient très upbeat. Tu sais, j'amène un petit peu trop d'énergie. Fait que là, ça me prenait le contraire d'un fou du roi. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Est-ce que tu acceptes cette position?
J'accepte avec honneur cette position, Angelo.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit une coach certifiée ICF, une hypno-coach, la méthode RTT. C'est une hypnothérapeute. Elle a plus de 30 ans ou 20 ans, excusez-moi, je ne veux pas la vieillir, 20 ans dans le monde corporatif qui l'a quitté après 20 ans. Donc, une transformation personnelle radicale. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait pour vivre, c'est aider des gens. Elle m'a été présentée par mon co-animateur, M. Francis Parent-Valiquette. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ton nom au complet. Ça doit être que j'aime ton nom au complet. Alors, sans plus tarder, je vous présente Mme Jeanne-Hélène Turcotte.
Bonjour.
Comment ça va, Jeanne-Hélène?
Ça va vraiment bien, puis vraiment merci. Merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Comme je disais, c'était l'idée de mon co-animateur. Je pense que pour mettre les gens en contexte, vous avez travaillé ensemble, vous avez déjà collaboré. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre relation en quelques minutes?
Je vais laisser Jeanne-Hélène y aller.
En fait, il y a plus d'un an, Francis et moi, on s'est retrouvés dans la même classe, une classe de PR, de relations publiques, de cours sur les relations publiques, et ça a cliqué. Je pense qu'on échangeait sur ce qu'on faisait dans la vie. Et c'est là que j'ai dit à Francis, moi, de toute façon, je ne ferai jamais de podcast. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, etc. Puis là, on sait, bien, j'ai mon propre podcast, que j'ai 20 épisodes en français, 20 en anglais. Donc, et Francis a été curieux de ce que je fais, de l'hypno. Et il m'a dit, OK, ouais, c'est intéressant. Il y a peut-être des choses que j'aimerais travailler avec toi, etc. On a discuté. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille ensemble. En fait, on a travaillé en premier de façon très, très concentrée, puis après sur ses croyances. Puis maintenant, on travaille à tous les mois.
Là, vous avez parlé croyances, parce que Francis, là, il m'a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'il a fait. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que tu as changé sa vie. Fait que là, j'ai dit, si quelqu'un a changé la vie de quelqu'un, ça vaut la peine de la recevoir à notre émission. Et Jeanne-Hélène, j'ai fait une présentation boiteuse de c'est qui Jeanne-Hélène Turcotte. J'aimerais ça en quelques minutes que tu me dises t'es qui, puis comment est-ce que tu fais pour aider des gens là, au quotidien?
OK, ben je vais commencer par ça parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour moi, l'idée, c'est d'aider les gens à faire des transitions, à faire des transformations, à débloquer, à aller d'un point A à un point B sans années et mois, en fait, de travail. Le travail peut se faire assez rapidement, mais c'est vraiment de se débarrasser de ce qui les bloque, des croyances limitantes, et les amener dans la vie qu'ils souhaitent avoir. Puis le chemin, c'est fort simple, c'est que les croyances, quand on les change, ça nous amène des nouvelles émotions. Ces nouvelles émotions-là nous amènent des nouvelles actions. Puis ces nouvelles actions-là nous amènent dans une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment ce que je fais avec les gens. Pour faire ça, j'utilise l'hypnose, qui est une plateforme. Puis on en reparlera probablement plus tard, mais l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est absolument pas sorcier. Et sous hypnose, en fait, on fait des exercices, des jeux. On va chercher des moments où est-ce qu'on ancre des croyances et on les désancre, on les défait et on refait des nouvelles croyances. Donc ça, c'est, je vous dirais, la plateforme, la façon dont je le fais, qui je suis, coach effectivement ICF depuis, certifié ICF depuis maintenant presque 8 ans, hypno depuis 1 an, et demi, 2 ans en fait, et aussi une fille de corpo. Je suis une fille qui a grandi dans le monde corporatif, cabinet juridique, les Big Four, etc. Puis finalement, suite à une perte d'emploi, suite à une restructuration, j'avais à ce moment-là un problème d'alcool qui s'est vraiment accéléré parce qu'une fois qu'on travaille plus puis qu'on est comme un peu désœuvré,
on a plus de temps libre aussi.
Exactement, on commence plus tôt. Et puis là, disons que la première année de ma perte d'emploi a été une année vertigineuse et c'est après ça où j'ai connu l'hypno. En fait, l'hypnothérapie qui m'a aidée dans... Et puis, je me suis dit, waouh, c'est fantastique.
Donc, c'est à quel âge que tu as fait une transformation incroyable?
En fait, ma vraie transformation a commencé il y a 5 ans. Il y a eu 2 ans où c'était de l'exploration. Je buvais encore, je consommais encore, mais j'étais dans la recherche de l'exploration de toutes sortes de choses. Mais il y a 3 ans, ça fait 3 ans que je suis sobre, c'est vraiment 3 ans. Il y a 3 ans où j'ai connu l'hypnothérapie qui a vraiment fait une différence dans mon rétablissement.
Fait que c'est possible de changer. C'est ça qui m'a intéressé de ton histoire, c'est que à n'importe quel âge, c'est possible d'arriver puis d'avoir une transformation importante puis de se dire, hey, j'ai vécu d'une certaine façon pendant 40, 50 ans. Puis tantôt, tu m'as dit que tu avais 53.
Oui, exact.
Donc, tu as fait une transformation. Je sais qu'il ne faut pas dire l'âge des femmes. Hein.
Jamais.
Je suis vraiment
jamais
désolé.
Le premier soir,
Angelo. On va bleep cette partie-là. quand on va faire le montage en passeport, on va faire bip. Alors,
hello.
Désolé, Jeanne-Hélène, je ne voulais pas te trahir, mais tu as l'air très jeune. Alors, tu sais, c'est une bonne chose. C'est possible à 50 ans là, de changer sa vie.
Absolument.
Des fois, les gens, ils ont des... Parce que tu as parlé de croyances. Est-ce que c'est une croyance populaire, ça, à moins que je me trompe, que... Je suis trop vieux pour changer. J'ai toujours fait ça d'une certaine façon. Il est trop tard.
En fait, ça, c'est la croyance. La croyance que c'est trop tard, c'est une croyance. Right? Si on va voir, puis c'est intéressant parce que quand on va fouiller, puis on va voir comment cette croyance-là s'est formée, à quel moment elle s'est formée dans notre vie. Et puis, on peut trouver que quand on était enfant, en fait, on a demandé à quelqu'un de changer, puis la personne a dit c'est trop tard, puis c'est resté comme ancré dans notre subconscient, puis on y croit. Puis l'idée, c'est qu'à partir du moment, c'est comme le Père Noël, c'est à partir du moment où tu n'y crois plus au Père Noël, tu ne peux plus y croire. À partir du moment où tu sais que ce n'est plus vrai, mm-hmm. bien, la croyance qu'il est trop tard, à partir du moment où tu n'y crois plus, bien, en fait, elle n'existe plus, elle est non opérante. Puis l'idée, j'ai des clients qui ont... fin soixantaine, début 70, qui sont en train de changer des choses fondamentales dans leur vie. On ne sait pas, ils peuvent rester 20 ans à vivre, 30 ans. Puis même si tu en restais juste une, si tu restais juste une année à vivre, puis tu pouvais la vivre libre, bien, et non pas dans la souffrance, ça vaut l'effort.
Moi, j'aimerais ça qu'on recule 3 pas en arrière. Qu'est-ce qu'une croyance?
Ah, la question qui tue.
C'est pour ça que Francis est là, d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il est là. Une croyance, en fait, c'est une idée fixe, quelque chose qui est là, qu'on prend pour du cash, qu'on ne questionne pas et qui influence nos émotions. Et quand on a une émotion, c'est qu'à la base de cette émotion-là, il y a une croyance, il y a quelque chose à laquelle on croit. Donc, cette croyance-là influence notre émotion. Donc, c'est une idée fixe. Puis souvent, dans les croyances, il va y avoir des toujours, jamais. Exemple, on est toujours, les gens sont toujours, l'argent corrompt tout le monde. Mm-hmm. Peu importe, la croyance qu'on a, il y a souvent une généralisation par rapport à ça. Il y a une idée que c'est fixe. Et c'est voilà.
On a parlé de croyances tantôt, puis peut-être on pourrait donner des exemples concrets.
Mm-hmm.
Est-ce que, puis moi, d'un niveau personnel, j'avais une croyance. Quand j'étais jeune, je m'en vais voir un médecin de famille, là, vous voyez comme le style. Puis le médecin me dit, parce que j'ai la thalassémie, qui est quelque chose de méditerranéen, donc une déformation des globules rouges, c'est rien de dangereux. Le médecin dit, tu ne seras jamais un athlète parce que tes globules rouges sont déformés, donc tu peux moins absorber rapidement l'oxygène. Donc, on sait que les athlètes, là, c'est quand même assez connu. Eux autres, ils ont des grosses globules rouges, là, des belles grosses globules qui absorbent tout plein d'oxygène. Fait qu'il m'a dit, tu ne seras jamais un athlète à 7-8 ans. Fait qu'on s'entend-tu que c'est une croyance qui est assez limitative?
Exact.
Alors, moi, je suis parti avec ça dans la vie en me disant, je ne pourrai jamais performer, je ne vais jamais être capable de courir ou des choses comme ça. Puis là, j'ai un ami qui m'a forcé ou qui m'a incité à la course. Puis j'ai dit, je ne serai jamais capable de faire 3 kilomètres. Puis là, on fait des 10, 11 kilomètres. Puis cette personne, c'est Francis.
Yes, sir, c'est moi. Je suis un forceur de coureur.
C'est un forceur. Lui, il m'a dit, on va-tu courir, Angelo? Je dis, ouais, on ira un jour. Fait qu'il m'a dit, demain matin, 7 heures. C'est comme ça qu'elle a commencé. Fait que merci, Francis.
Bon.
Je pense que ça m'amène sur le sujet de, ça prend un équilibre dans la vie. Puis toi, t'aides des gens. Puis j'imagine que t'as beaucoup de gens d'affaires.
Ouais.
Puis est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre entre la santé, le succès en affaires puis la famille?
En fait, c'est un choix. Right? Puis un, la définition d'équilibre, elle n'est pas la même pour tout le monde. Je pense que c'est la première chose à définir. C'est quoi l'équilibre pour toi dans ton environnement? Tu sais, exemple, je te pose la question, pour toi, c'est quoi l'équilibre?
J'ai aucune idée. Je suis déséquilibré. The blind leading the blind.
Mais c'est quand
pour toi,
tu
c'est
sais...
quoi, Francis, l'équilibre?
Ouais.
Moi, je pense que l'équilibre n'existe pas. C'est un contrebalancier. On est tout le temps d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est d'être 100% où ce qu'on est tout le temps. Mais de revenir vite. Right? Comme...
Ouais.
Et toi, tu penses quoi?
Ben, écoute, moi, je suis plutôt là-dedans parce que moi, je suis tout ou rien
okay.
en même temps. Fait que j'ai, moi aussi, j'ai consommé et moi aussi, ça fait 3 ans que je suis abstinent, sobre. Et c'est quand même drôle hein, qu'on se rencontre comme ça.
Exact.
Que les deux, on a 3 ans. Fait que félicitations, Janine, pour ça. C'est un jour à la fois,
toi.
Comme on dit. Et je sais pas, j'essaie de trouver cet équilibre-là, mais moi, je pense que si tu es bien, si tu es heureux, ben, que tu as trouvé ton équilibre à toi, ben, tu es sûrement dans une bonne place. Puis aujourd'hui, ben, il y a sûrement, peut-être que ma blonde vous dirait autrement, mais moi, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. J'essaie de passer du temps avec la famille de qualité, 2 enfants. J'essaie d'être disponible ici puis de faire mon maximum au travail. Puis je garde toujours 45 minutes à 1 heure par jour pour faire de l'exercice. Fait que ça peut être courir avec Francis, m'entraîner, peu importe c'est quoi, qui était quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Fait que j'avais une croyance que je serais jamais un athlète. Fait que pourquoi je m'entraîne? Ben, t'as pas besoin de t'entraîner pour être un athlète. Tu peux le faire juste pour être heureux puis être en santé. Puis là, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, absolument.
Parce que je me sens un petit peu en thérapie. Est-ce que c'est normal?
Une thérapie avec Angelo.
Une thérapie
Alors, vous êtes
avec Angelo.
D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'expresso parce que c'est quand même un expresso avec Angelo.
Exact.
Et comment est l'expresso? Est-ce que tu étais une buveuse de café?
Oui. Moi, le matin, c'est 3 doubles allongés. OK, c'est... Et je dirais, j'en ai parlé dernièrement dans un vidéo que j'ai fait, c'est la prochaine habitude que je veux changer dans ma vie. J'ai déjà été sans café pendant 1 an et demi et c'était excellent et je sais que je peux le faire. En fait, j'ai la croyance que je peux si je veux, mais j'aime vraiment le café.
C'est vrai que c'est, à part ça, c'est une drogue, hein? C'est pas Tim Ferriss dans le podcast. Puis Francis, c'est un gros fan de Tim Ferriss, puis moi aussi.
Puis moi aussi.
Puis là, il parlait de, c'est une drogue, la caféine.
Exactement.
Fait que, des fois, je réalise qu'on fait des déplacements vers autre chose. Puis moi, 3 ans que j'ai pas consommé et ça fait 1 an que j'ai pas fumé.
Bravo.
De cigarette.
Bravo.
Alors,
bravo. Mais tu sais qu'il y a 5
si j'étais
familles.
Capable, vous êtes capable. Mm-hmm. Et... non, c'est possible de changer, c'est incroyable.
Mais tu sais, il y a 5 familles, hein? Tu sais, il y a 5 familles. En fait, on peut avoir des... Il y a les substances, celles qu'on connaît vraiment bien. Il y a la nourriture. Il y a tout ce qui est l'argent, le gambling, les dépenses en ligne. Tout ce qui est relations sexuelles, autres, dépendances affectives et la technologie. Fait que, tu sais, des habitudes, en fait, tu sais, des habitudes qui sont néfastes, qu'on continue de faire malgré le fait qu'ils ont des conséquences négatives dans notre vie. On peut facilement tous en trouver.
Alors ça, moi, je disais à ma femme, Shani, que je salue, puis je remercie. J'ai dit, je suis parfait.
J'ai dit, j'ai les 5. J'ai un bon équilibre, j'ai les 5 familles.
Voilà, t'as trouvé ton équilibre,
moi,
Angelo.
Moi, je dans ma tête, je bois pas, je fais pas ci, je fais pas ça, donc je suis parfait. Mais tantôt, on a parlé de quelque chose, Jeanne-Hélène. On a parlé de la substance, puis après ça, on a parlé des comportements. Puis moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que la substance, c'était 15 % du problème. Puis 85 %, c'est les comportements qui viennent avec. Donc, apparemment, l'humilité, là, c'était pas ma qualité principale. Je sais que t'es sous le choc en français.
Je suis sous le choc de quelqu'un qui vient nous dire qu'il est parfait.
Alors, moi-même, je me suis impressionné. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'imagine, toi, Jeanne-Hélène, t'avais des croyances, t'as sûrement encore des croyances, t'avais des croyances à l'époque. C'est de ça que j'ai envie de parler.
En fait, la première croyance que j'avais, c'était que j'étais pas capable d'arrêter, puis que si j'arrêtais, que ma vie allait être plate. Donc ça, c'était la première chose, parce que j'avais l'impression que ça meublait tellement ma vie, que ça me rendait tellement intéressante, que ça me rendait plus intelligente, mm-hmm. que ça me rendait socialement plus acceptable, que ça me rendait plein de choses. Puis il y a toute une gradation au niveau de ça. En fait, ça, c'était les croyances apparentes. Mais sous ça, la croyance générale, c'était que je me sentais pas assez. Je me sentais pas, comme on dit en anglais, « enough ». ».« I didn't feel enough ». So, pour me sentir « enough », assez sociale, assez intelligente, assez ci, assez ça, ben je prenais de l'alcool. C'est ma façon, finalement. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'avec le temps, tu es de moins en moins sociable, puis tu as de moins en moins de vie de voir les gens. Puis, en fait, tu n'es plus en relation avec les gens, tu es en relation avec ta substance. C'est ça qui est important.
Dans le fond, tu finis par t'isoler, puis le résultat, c'est que tu utilisais ta potion magique pour être plus sociable, mais finalement, tu te retrouves seul.
Exactement. Mais oui, parce que finalement, au bout du compte, tout ce que tu veux... Tu sais, moi, exemple, je ne conduisais pas. Quand je buvais. Tu sais, ça, j'ai été éduquée là, de façon vraiment... J'ai été brainwashée quand j'étais enfant. Là. Tu peux pas conduire et boire. Et ça fait que je le faisais vraiment pas. Mais tu sais, supposons qu'il y avait... Je me souviens, un jour, là, c'était les 60 ans de ma tante que j'aime beaucoup, qui a été super... Une tante magnifique pour moi. Je la salue, Lise, elle va se reconnaître. C'était ses 60 ans. Puis, je suis pas allée à son anniversaire parce que c'était à Terrebonne. Moi, j'habitais à Montréal. Puis, dans ma tête, je pouvais pas y aller et boire. Fait que je suis restée chez moi, j'ai bu, puis je suis pas allée à son anniversaire. Tu sais, quand t'es rendu à faire des choix de vie qui sont que la prédominance, c'est vraiment ta consommation, sur des gens que tu aimes, que tu apprécies, que tu pourrais aller célébrer, c'est que là, vraiment, tu sais, il est temps de faire quelque chose. Et tout ça, c'est des lumières rouges qui se sont allumées sur mon dashboard.
Mais c'est ça, une des missions du podcast... Puis j'en ai discuté longuement avec Francis, on essaie d'inspirer des gens. Puis le rétablissement en est une des choses. En anglais, on parle « recovery ». Est-ce qu'on a vu que c'est possible de changer à n'importe quel âge? J'ai déjà été en thérapie, mesdames et messieurs. Et j'ai vu des gens de 60, 65 ans, 70 ans qui arrivaient au bout du rouleau puis ils disent je fais un changement majeur dans ma vie ». Puis tu les vois quelques années plus tard, là, puis tu vois la différence incroyable. Fait que l'âge, c'est pas déterminant. Est-ce qu'il y a d'autres façons de commencer un changement? Tu sais, arrêter des substances ou est-ce qu'il y a commencer quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu peux nous donner? Nous, là, on veut s'améliorer. Là. Moi, je suis dans le filon de la croissance personnelle. Puis là, j'ai une coach devant moi. Là, puis là, je veux qu'elle me coach pour devenir encore meilleur parce qu'apparemment, je ne suis pas parfait.
On va demander à Shani.
Shani, est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas.
On va l'enregistrer. Ah.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Jeanne-Hélène?
Ben moi, là, en fait, il y a trois étapes. La première, pour moi, c'est se bâtir une équipe. Donc, peu importe le changement que vous voulez dans votre vie, c'est se bâtir une équipe. Puis une équipe, moi, je crois à... Il n'y a pas un gourou, il n'y a pas une méthode... qui est la réponse à tout. À tout.
Tous donc, les problèmes.
À tous les problèmes, mais même à vos enjeux.
Il
n'y
a pas une pilule magique comme ça? Qui...
Non.
Oui, mais il faut que tu l'arrêtes, celle-là.
OK.
c'est ça qu'on essaie d'arrêter.
Si tu la trouves, on se part en affaires ensemble, c'est clair.
Fait que les trois étapes.
les trois étapes. Donc, la première, c'est se faire une équipe. C'est ce que j'appelle se faire une équipe A. Une équipe A, c'est des gens qui, un, savent c'est qu'est-ce que tu veux régler dans ta vie? C'est quoi l'enjeu que tu veux régler? Deux, c'est des gens qui ne te jugent pas. C'est des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, OK, puis qui vont te pousser et te respecter en même temps et qui vont respecter le fait qu'ils ne sont pas les seuls dans ton équipe. Pour moi, c'est vraiment important. Tu as une équipe autour de toi. Tu sais, j'avais une massothérapeute, j'avais une acupunctrice, j'avais un entraîneur, j'avais tous les podcasts que j'écoutais, j'avais mon hypnothérapeute, puis toutes sortes de personnes dans mon équipe qui sont restées des fois un certain temps, des fois plus longtemps, dépendamment. Il faut savoir congédier, dire bonjour aussi aux personnes dans notre équipe quand ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Au départ, moi, j'avais un tableau dans ma cuisine, OK? Trois colonnes. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qui va me le donner? Combien ça coûte? J'ai géré ça comme un projet. Donc, ça, c'était mon équipe, ça, c'était mon étape A. Mon étape 2, c'est chaque jour, tu fais une action. Si ce que tu veux changer dans ta vie, c'est, je sais pas, tu veux te remettre en forme, tu veux, peu importe ce que c'est, on va prendre se remettre en forme. Mais à chaque jour, tu fais une action. Et se reposer, ça peut être une action. Mais c'est conscient. Right? On en parlait plus tôt, dans le sens que se reposer, ça peut être une action. Mais l'idée, c'est que ça soit conscient. C'est de dire, aujourd'hui, moi, je me repose. C'est l'action que je pose dans me remettre en forme parce que mon corps en a besoin, parce que mon esprit en a besoin. Chaque jour, on fait une action. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, on l'oublie toujours, on l'escamote, c'est de laisser les choses se poser. La dernière étape de mon recovery, ça a été 6 mois où tout ce que j'ai fait, c'était une méditation par jour, le Kirtan Kriya, que je propose à plusieurs de mes clients. Et je me suis assise devant mon foyer, puis j'ai médité pendant presque 6 mois, dans le sens qu'à tous les jours, et je n'ai rien fait. J'ai pas vu de thérapeute, j'ai pas rien fait autre que marcher et méditer et laisser toutes mes apprentissages se poser, se solidifier.
Il y a plusieurs techniques. Tu as parlé de méditation, tu as parlé d'hypnose.
Exact.
J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus parce que c'est sûr que l'hypnose, ça m'intéresse de connaître un peu plus sur le sujet. Puis tantôt, tu as parlé, je faisais beaucoup de signes de tête parce que tu as parlé de c'est correct de se reposer. Moi, j'avais la croyance de si je m'arrête, mais pas j'avais, j'ai la croyance.
Tu l'as encore, tu as la croyance.
J'ai la croyance de si je m'arrête, j'ai perdu.
OK.
Donc, faut pas
qu'est-ce
que je
m'arrête. Que tu as perdu?
Je ne sais pas qu'est-ce que. Mais c'est juste que.
Réponds à la question.
Non, mais qu'est-ce que tu as perdu?
Je ne me suis pas arrêté, fait que je n'ai pas encore perdu. Mais,
qu'est-ce que tu perds?
Non, si tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu restes de
le perdre? Momentum.
Ah, OK.
Tu vois, genre, on va dire, j'ai décidé de m'entraîner à tous les jours.
OK.
Puis là, je ne prends pas de recovery, de journée de repos. Puis là, je dis des fois, je suis raqué, j'ai mal, puis je continue. Puis là, les gens, ils me disent, mais repose-toi. Mais je dis, mais si je m'arrête, ça va être dur de repartir le train, là, comme je
suis. OK. Puis si tu repars pas le train, ça va te faire sentir?
Que j'ai manqué mon coup, que j'ai une défaite, que j'ai encore pas respecté un engagement que j'avais pris envers moi-même qui est de...
Donc, est-ce que tu peux prendre l'engagement de te reposer puis respecter cet engagement-là?
Sûrement. Sans doute.
Il ne veut pas dire oui.
Oui.
Non, mais tu vois un peu le cercle dans le sens que l'idée, c'est de dire la croyance, de dire si je me repose, je perds mon momentum. Puis là, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est pas si je me repose, je perds mon momentum, c'est que finalement, je vais pas respecter ma parole, je vais pas tenir mes engagements, je suis pas bon, je suis pas assez bon, je me tiens. Tout ce qui vient, tout ce qui est se parler négativement, là, avoir un mauvais discours pour soi, OK? C'est ça qu'il y a derrière cette croyance-là. Et si tu la changes en disant, ben, dans le fond, moi, je m'engage à me reposer, fait que je tiens mon engagement.
C'est bon, ça. Je commence à comprendre. C'est dur pour moi de comprendre des choses. Qu'est-ce
quand
que tu penses?
Ça, c'est longtemps. Une croyance.
Ça, c'est une croyance, c'est ça.
Ça, c'est une croyance parce que j'ai compris très vite, à mon avis.
Puis ouais. En passant, tu as un podcast, puis ça s'appelle « C'est une croyance ».
C'est juste une croyance, oui.
Fait que pourquoi tu as lancé un podcast?
J'ai lancé un podcast parce que quand j'étais enfant, moi, je voulais changer les choses. Moi, je rêvais de Genie. Je rêvais d'être mini-fée, puis d'arriver, puis que faire ça, puis que ma chambre soit faite, faire ça, puis qu'on soit chez ma grand-mère, faire ça, puis que peu importe.
Un coup de baguette.
Un coup de baguette. Tu sais, pour moi, c'était comme... Et puis, quand j'ai rencontré Francis, puis que moi, j'étais déjà une fan de podcast. Dans mon recovery, je marchais à peu près 80 km par semaine et j'écoutais des podcasts, mais en boucle. Tu sais, j'écoutais des podcasts, beaucoup de recovery, tout ça, de toutes sortes de personnes. Et donc, parler. Moi, j'étais enfant, là, puis j'enregistrais des émissions sur, tu sais, on avait des petits
tapes,
là. J'enregistrais des émissions comme on fait maintenant. Puis je posais des questions, je donnais des réponses, je posais des questions, je donnais des réponses, je posais des questions, je donnais des réponses, j'adorais ça. Et quand le podcast est arrivé comme une possibilité, moi, je trouvais ça trop compliqué. Moi, j'aime pas les choses compliquées, je suis pas une fille techno, etc. Fait qu'il me dit, non, soir, c'est simple, tu peux juste t'acheter un petit micro, mettre ça après ton iPhone, si tu verrais mon équipement. C'est vraiment rudimentaire. Et je m'amuse. Mon podcast, là, j'ai du plaisir. Vraiment. Fait que je fais mon podcast pour aider les gens à réfléchir par eux-mêmes, aider les gens à développer, se poser des questions. Parce que dans mon podcast, presque dans chacune des épisodes, je pose des questions. Je les amène à se poser des questions, à trouver des réponses. Pour moi, autonomiser mes clients, je les amène tous à être super autonomes. Ils sont capables de se fermer les yeux, d'aller dans leur inconscient puis de trouver les réponses qu'ils cherchent très facilement.
Parce qu'ils sont souvent là. Exact. Les réponses dans notre subconscient.
Ils sont tout le temps là.
Parce que j'en ai parlé tantôt avec toi, j'ai fait de la PNL, est-ce que ça se dit comme ça en français?
Oui. NLP, ouais.
PNL. Et mon coach, que je salue, Joe Alvarez, il me disait souvent, toutes les solutions sont déjà là, tu sais, they're within, à l'intérieur. Si tu les connais, les solutions aux réponses ou les problèmes que tu veux régler, tu les as déjà en dedans de toi. Donc, quand tu me parles, là, je comprends de ce que tu veux dire. Je suis pas comme perdu. Mais il faut avoir quand même une ouverture d'esprit quand on parle de ces différentes techniques-là. Tu as parlé d'ancrage, tu as parlé de hypnose.
On peut revenir sur l'hypnose. Oui,
j'aimerais s'en parler.
Ouais, moi aussi, j'aimerais s'en parler. Une bonne fois pour toi.
Parce que les gens, là, souvent, ils pensent que l'hypnose, c'est mesmer, là, puis... va voler une banque, puis là, tu es sous hypnose, puis tu vas faire un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas ça du tout.
Peut-être, Francis, tu peux peut-être parler de la sensation physique.
Bien, c'est bien relaxant. Je vais en parler. Moi, la première fois, sincèrement, contrairement à monsieur à côté, j'ai jamais pris de drogue dure. Donc,
merci.
c'est par peur, par plusieurs peurs. J'ai pas de mérite, en fait. C'est vraiment de la peur. Donc, c'est des croyances que j'avais que si j'allais prendre ça, j'allais déraper. Et j'ai gardé ces croyances-là parce que je pense qu'ils me servent plus qu'ils me nuisent. J'ai pas vraiment de mérite. C'est vraiment de la peur. Je me suis toujours poussé de ça. Mais la première fois, j'ai fini, puis j'avais l'impression d'avoir fait comme une espèce de trip de drogue. Mais j'imagine que ceux qui ont fait de la drogue vont dire comme c'est rien à côté. Mais j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent de traitement psychédélique, et je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Ça m'a amené des souvenirs, vraiment comme j'étais relax au bout, puis ça m'a amené à des places, des souvenirs, des détails que si je te demande de décrire une situation, je ne me souviens pas. Et que sous hypnose, il y a comme des senteurs, des... textures, des sensations, des sentiments que j'étais capable de revivre. Donc, je vais juste parler de ça. C'est un peu comme une espèce de rêve éveillé où ce que tu as 100% le contrôle. Peut-être que Jenny Lane pourra en témoigner. Il y a un moment donné qu'on est allé à une place que je voulais pas parler, puis on n'a pas parlé. Right? C'est comme ça sera réglé une autre fois dans ma vie. J'ai consciemment décidé de ne pas aller là, comme je suis pas prêt à aller là. Fait que c'est pas Mesmer ou le film là, Constantinople qui dit au monde d'aller voler des banques. C'est pas ça du tout. C'est juste comme vraiment relaxant, puis de vraiment connecter avec soi-même.
En fait, l'hypnose, c'est un état naturel, on doit savoir. On est en hypnose tous les matins. Tu sais, cette zone entre être parfaitement éveillé puis qu'on s'éveille, l'espèce entre les deux. Il y a des gens pour qui l'entre-deux, ils le sentent vraiment. Il y a des gens qui ne le sentent pas vraiment. La même chose le soir, avant de s'endormir, tu sais, cette espèce de moment qui est juste avant de dormir. C'est l'hypnose naturelle, on est là naturellement. Ça vous est sûrement déjà arrivé de conduire à un endroit familier puis tout d'un coup, vous dire, hey, mon Dieu, comment je me suis rendue là? Parce que, en fait, vous êtes sur le pilote automatique, ce qui est un état d'hypnose. La même chose quand on écoute un film, puis tout d'un coup, on est comme, oh mon Dieu, j'étais où? C'est un état d'hypnose naturelle. L'hypnose, c'est vraiment naturel. C'est une plateforme. C'est une plateforme qui permet d'être vraiment totalement relaxé, d'avoir accès à tout ce qui est storé ici, auquel on veut bien avoir accès. C'est vraiment important parce que l'idée, c'est de dire toujours, l'inconscient nous donne l'information de façon vraiment intelligente, comme un peu en poupée russe. T'sais, il nous donne l'information qu'on a besoin pour comprendre la suivante, puis comprendre la suivante, puis comprendre la suivante. Fait que c'est fait de façon très ordonnée et intelligente. Mais plus que tout, ce qui est important, c'est que si on ne veut pas aller là, on n'a pas besoin d'y aller. C'est vraiment, la personne est vraiment consciente. T'sais, j'ai une amie qui me dit « Je pourrais quasiment passer mon balai quand je fais l'hypnose avec toi. » Parce qu'elle est très consciente, très éveillée. Donc, c'est une plateforme. C'est vraiment ce qu'on fait sous hypnose qui amène les changements. C'est
parce que tu as dit que tu pratiquais l'hypnose à distance comme ça, là, sur Zoom.
Absolument.
Ça m'a impressionné.
Oui.
Oui, puis c'est vraiment hot parce que tu as un tape d'auto-hypnose. Puis même si on est par Zoom, l'énergie est là. Comme les séances par Zoom fonctionnent définitivement mieux pour moi que l'auto-hypnose. Même si c'est quand même Jenny Lane qui a fait mes capsules d'auto-hypnose, que c'est le même protocole, que c'est la même session qui est enregistrée, comme par Zoom, c'est pas pareil.
Ouais, mes clients sont partout, hein. Tu sais, j'en ai en Arabie Saoudite, en Suisse, aux États-Unis, partout à travers le monde. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'après la séance, parce que c'est des séances quand même de 2h30, souvent 3h, les gens, après, sont contents d'être chez eux puis de pouvoir juste rester dans leur petite planète.
On en parlait justement, c'est drôle parce que ma conjointe aussi a fait d'hypnose avec toi, puis elle disait justement, ah, vu que c'est déconfiné, peut-être que je pourrais aller en personne. Puis j'ai dit, d'un, je sais pas si Jenny Lane accepte encore en personne. Puis de deux, j'ai dit, moi, j'aime trop, comme, avant, j'aurais voulu le faire en personne. Là, j'aime trop, comme, je finis, je vais me coucher. Tu sais, je monte en haut, puis je vais faire une sieste. Je me vois pas conduire après une séance d'hypnose.
Mais Francis, tu parles souvent de faire des siestes.
Oui! Je suis un gars de sieste vendu. Moi, je crois au repos. J'ai pris l'engagement de me reposer.
C'est ça. Puis tu la respectes.
Je la respecte.
Moi, je suis incapable de faire des siestes durant le jour, comme ça, quand le soleil est levé. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis ça peut être quoi l'avantage comme ça de méditer? Parce que je pense que c'est beaucoup d'exercices comme ça de respiration. Puis ma montre, moi, mon iWatch, elle me rappelle toujours que je dois respirer. Fait que je me demandais, c'est quoi les bénéfices ou les avantages de la méditation?
La méditation, c'est un sujet vraiment vaste. Il y a vraiment un grand, grand éventail. Je ne suis pas une personne qui médite de façon… Je médite à tous les jours, mais ma méditation est vraiment simple. Mais celle que je préconise vraiment, celle que j'ai fait pendant mon recovery, c'est le Kirtan Kriya, qui est une méditation du Kundalini Yoga et qui est une méditation vraiment… Qui fait appel et au sens et à l'imagination, la visualisation, puis qui permet vraiment un calme. Moi, je l'ai fait pendant 280 jours d'affilée, et puis à la fin des 280 jours, j'avais vraiment l'impression que le sang était changé, dans le sens qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, toutes ces approches combinées les unes aux autres, vont tous chercher un point d'appui, se mélange, puis à la fin, en fait, donne le résultat qu'on recherche.
Puis si, excuse-moi de t'interrompre, mais si je fais de la méditation, puis je suis pas capable de… parce que je pense toujours à quelque chose, qu'est-ce que tu me suggères?
OK. En fait, c'est normal de penser toujours à quelque chose. C'est absolument normal. L'idée, quand la pensée arrive, c'est de la regarder puis de lui dire « Ah, t'es là. OK, merci. » Tu peux partir. Ou de la regarder, la pensée, puis de la laisser aller. De la voir pour pas autre chose que ce qu'elle est qu'une pensée. Puis surtout de pas commencer à se parler négativement. Ah, tu vois, t'es pas capable de méditer. Ah, tu vois, t'es pas capable de t'arrêter. Ah, tu vois, t'es jamais capable de… À partir du moment où tu entres dans cette conversation avec toi-même qui est négative, ben tu contrefais un peu les effets que tu recherches. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, tu es là, c'est normal d'avoir une pensée. Je suis un être humain, je pense, c'est correct, c'est normal.
OK, c'est normal d'avoir 1 million de pensées par seconde?
Ça n'arrêtera pas avec la méditation. Puis, j'aimais bien l'image des méditations guidées, il y en a plein, 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 dont celle d'être sur le bord de la rivière puis de regarder ta rivière de pensée passer au lieu de nager à contre-courant pour essayer d'en sortir. Tu t'assois ou tu regardes. C'est un peu ça l'image. Puis j'aimerais faire une petite parenthèse. Kirtan Kriya, tu me l'as suggéré pour les auditeurs qui pourraient s'intéresser à ça. Super facile. Sur YouTube, il y a des tutoriels et sur Spotify, il y a même la courte de 11 minutes. On se met les écouteurs, on suit.
OK, et... 11 minutes, c'est court.
Oui, pour la méditation.
Oh my God, OK, moi, c'est comme je pensais 11 minutes, c'est long. Passer à méditation d'une minute, genre.
Il y en a, si tu… Il y a des applications.
Il y en a-tu pour des énervés comme moi?
Ouais, oui, il y en a. 90 secondes, c'est assez pour se calmer.
J'ai appris le 4-4-8, inspire en 4, retiens ta respiration 4 secondes, expire en 8 secondes, puis c'est pas mal ça qui me recentre, parce que la respiration, c'est effectivement, c'est important. On a parlé de la transformation en général, puis tu avais des croyances avant, l'ancienne Jenny Lane, on va dire la version 1.0, la version 2.0, comment tu te sens, puis c'est quoi tes nouvelles croyances? Est-ce que tu penses que tu es capable de tout faire maintenant?
Mais je sais que je peux tout faire si je veux, mais je sais que je vais choisir. En fait, les plus grandes choses qui se sont transformées chez moi, c'est que maintenant, je peux m'exprimer. Avant, je n'arrivais pas à exprimer vraiment mes besoins, ce qui était important pour moi. Donc, pour moi, mes besoins n'étaient pas légitimes. Donc, je les exprimais pas vraiment. Ça, c'est une chose. Je croyais que j'étais pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez ci, pas assez ça. Maintenant, je sais que je suis assez, que ce que je suis suffit. C'est parfait comme ça. Et puis, je dirais, l'autre croyance qui a beaucoup changé, c'est que je sais maintenant que je peux être bien. Je sais que je peux être bien pendant une longue période de temps. Et je sais aussi que ce que je sais maintenant, l'état où je suis présentement, je peux décider de rester là ou je peux décider que je veux monter une autre montagne, que je veux faire d'autres changements dans ma vie, que je veux faire autre chose. C'est un choix. Et cette certitude que j'ai maintenant, que j'ai le choix, c'est ça, en fait, qui m'amène mon équilibre à moi. Mmh. C'est de savoir que j'ai le choix.
C'était beau, ça.
Oui, c'est poétique.
Quasiment poétique.
Oui, je sais que la conversation a viré un peu. On a parlé de recovery, on a peut-être plus ou moins parlé de ton parcours, tu nous parlais entre-temps. Il y a la culture présentement de « c'est cool boire ». Okay. Je ne sais pas si je suis seul à voir ça. Tu sais, comme partout, surtout les podcasts, il y a toujours une bouteille d'alcool dans le milieu. On peut parler de l'émission « Tout le monde en parle ». Il y a le vin qui sert de plus en plus tard. Il y a le fameux « wine o'clock ». Les gens sont comme fiers du vendredi ou du vendredi, du jeudi vin ou peu importe. Puis, il y a une recrudescence. Je n'ai pas de chiffres, c'est toi qui me dis ça, des femmes alcooliques. Donc, les femmes sont en train de rejoindre le stéréotype de l'homme. Et je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus.
Ouais. En fait, le label, pour moi, l'étiquette, je m'en fous un peu alcoolique, pas alcoolique. T'sais, j'ai eu un problème d'alcool, mais je ne me considère pas comme une alcoolique. Je n'irai jamais maintenant dire que je suis une alcoolique parce que pour moi, je suis quelqu'un qui a utilisé l'alcool pour gérer ses enjeux, mais je ne l'utilise plus maintenant. Fait que ça, c'est ma croyance à moi, puis je la garde. mais beaucoup de jeunes femmes et de femmes, en fait, depuis 2003, ça a doublé. Les enjeux d'alcool chez les femmes. Et cette espèce de culture entre femmes de c'est correct de boire, on va boire ensemble, ça permet de relaxer les jeunes mamans, etc. Puis c'est correct, hein? En fait, je suis pas contre
l'alcool.
Moi, je suis contre ce qui nous rend malheureux. En fait, c'est pas que je suis contre, mais c'est ta vie à toi. Tu peux choisir de continuer à la consommer si tu veux. Mais il y a vraiment une recrudescence de ça. Et c'est insidieux, l'alcool et les drogues, parce que ça fonctionne jusqu'au jour où ça fonctionne plus.
Puis, c'est une potion qui marche un certain temps.
Justement, exactement. Et c'est très insidieux comment tranquillement ça devient ton compagnon. Tranquillement, ça devient ton remplacement. Tranquillement, ça devient le go-to. Et puis tranquillement.
La seule solution qui fonctionne, là, ça devient ça.
Et tu deviens de plus en plus que tu connectes pas ni à toi, ni à tes amis, ni à ton activité, mais tu connectes avec la substance elle-même. Puis les jeunes femmes, surtout, boivent vraiment de plus en plus. Donc, je pense que c'est. Si tu sens que ta consommation d'alcool, si tu sens que tu te lèves le matin et que tu n'es pas fière de la veille, que ton cœur commence à battre. Si tu sens que tu commences à choisir tes activités en fonction de est-ce qu'il va y avoir de l'alcool, est-ce qu'il ne va pas avoir de l'alcool. Si tu sens qu'il y a un souper ou un endroit, une place qu'il faut que tu ailles puis qu'il n'y a pas d'alcool puis que tu te dis « Ah, ça va être plate. » Si tu commences à penser que tu es plus intelligent ou intelligente parce que tu prends de l'alcool, c'est des bonnes questions à commencer à s'interroger. Et surtout, c'est parce que c'est insidieux. Il y a un jour, la consommation augmente tranquillement, tu t'en rends pas compte, puis un jour, ça devient trop. Et ouais. Si t'essayes, OK, maintenant, je vais boire juste la fin de semaine, mais t'y arrives pas. OK, là, je vais boire juste la moitié de la bouteille, mais t'y arrives pas. OK, là, je vais juste boire quand je suis avec des amis, puis j'y arrive pas.
Je bois plus d'alcool, disons, des spiritueux, je vais boire juste du vin.
Exact.
Puis ça marche pas. Mais est-ce qu'on pourrait... Francis, là, il y avait une parenthèse... Puis là, j'aimerais ça que le fou du roi, ben le contre-fou du roi arrive.
Yes, sir.
Puis après ça, on va embarquer dans notre segment express. Puis là, on va pitcher. Ça dit-tu pitcher?
Ouais.
Plein de questions, okay. Puis on veut avoir des réponses rapidos. Fait que Francis, je te cède le micro, mon chum.
On parle beaucoup, ça s'en vient de plus en plus mainstream. En tout cas, il y a comme une démocratisation des traitements psychédéliques. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'utiliser des drogues comme du LSD, MDMA.
Ayahuasca.
Exactement. Oh, toutes des plantes En combinaison avec des traitements, soit ça soit psychologie,
exact.
Et l'hypnose revient souvent dans ces traitements-là. Donc, je voulais avoir, c'est comme une question surprise, je n'en ai pas parlé, je veux savoir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois de ça qui s'en vient?
En fait, oui, je pense que c'est actuellement ce qui est intéressant avec les psychédéliques, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de financement pour des recherches sérieuses qui sont faites, à savoir est-ce que ça donne vraiment les résultats escomptés, ça aide les gens à avoir des déblocages, des changements. L'enjeu que j'ai, moi, en fait, ça c'est un enjeu personnel, c'est que compte tenu de mon historique d'avoir eu des dépendances aux substances, à l'alcool, j'irai pas là. Parce que j'irai pas dans essayer une substance pour régler un enjeu. Okay? Mais j'ai des clients qui ont fait ayahuasca, notamment. J'ai failli, même une fois avec le Dr. Gabor Maté, aller en Amérique du Sud à sa retraite. Finalement, je suis pas allée justement pour ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches actuellement. Je vais être curieuse de voir ce qu'il y a. Ce que je vois, ce que je regarde jusqu'à présent, c'est que faut que ça soit dans un environnement hyper contrôlé et que c'est un peu le danger du dérapage, c'est que ça devienne, c'est quand même des choses, ce que j'en comprends, et je connais pas suffisamment pour me prononcer, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il peut y avoir des faciles dérapages de n'importe qui va se mettre à administrer ces plantes-là qui pourraient être très dommageables. Donc, je pense que ça va être à suivre, mais...
On est rendu dans notre segment Express pour un espresso. Et on va te poser quelques questions, Janilène. Et juste, vas-y comme tu le sens.
OK.
Francis, n'hésite pas à intervenir ou à ne pas intervenir parce que je fais ça à moi-même. Dans le fond, je me fais ça à moi-même. Alors, si tu avais à choisir, Janilène, parce que j'ai entendu dire que tu vas souvent dans le sud et tu aimes la plongée. Est-ce que si tu avais à choisir entre les Bahamas ou Montréal?
Les Bahamas.
Fait que tu serais parti. Ciao, bye.
Ciao, bye.
Oh my God. OK.
La bonne nouvelle, c'est qu'elle fait ses séances par Zoom.
Elle peut les faire à distance. Ça, c'est merveilleux, la technologie.
La technologie.
Entre le voilier ou paddleboard, là, si tu avais à choisir entre
voilier.
Le voilier. Un livre ou une ressource que tu pourrais nous suggérer?
Il y a le Kirtan Kriya. Puis, il y a un livre de Alice Miller que j'aime beaucoup qui s'appelle « The Drama of the Gifted Child ». En français, je sais pas, mais il existe en français, qui est vraiment, avoir accès à son histoire, ça peut vraiment changer sa vie.
Fait que je pense que notre producteur et co-animateur va mettre le livre juste ici.
Exact.
Est-ce que, Janilène, tu crois à la crypto? Crypto-monnaie.
Ouais, en fait, est-ce que j'y crois? Ça, je n'ai pas le choix d'y croire, ça existe.
C'est la raison pour laquelle, on a posé la question ainsi. Est-ce que tu y crois?
Parce qu'on parle de croyance.
Ben oui, mais ça existe. C'est là, je veux dire, y croire.
Good job, Frank. Est-ce que tu crois que ça a un avenir d'abord?
Ouais, ça a un avenir certain. Ça a un avenir. Mais c'est quel avenir? Je ne sais pas.
Mais est-ce que tu as de la crypto?
Non, je n'ai pas de crypto.
OK, parfait. On est quand même chez Rubino.
Oui. Est-ce que j'ai des chaussures? Oui. J'en ai 75 paires.
Les femmes... En fait, là, je veux juste dire, s'il n'y avait pas de femmes, on n'existerait pas. Parce que 95% de nos clients, c'est des femmes.
Il faut que je te raconte une histoire de souliers.
Vas-y. On est chez Rubino, alors. On aime les histoires de souliers.
Je viens de déménager...
En
avril, je suis déménagée dans le Nord. J'ai des amis qui amenaient au bord d'un lac. C'est comme vraiment comme dans le Nord. Moi, j'étais au centre-ville depuis longtemps. Mes amis qui déménageaient mes boîtes ont vu une boîte, c'était écrit souliers. Puis tu sais, c'était des boîtes, des banker's box avec un trou dedans. Puis là, ils ont vu des souliers brillants. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec des souliers brillants?
Sur le bord d'un lac.
Non, au bord d'un lac. Et ça, c'est le running gag. Là, c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire avec tes souliers brillants? J'étais enfant, quand j'avais 12 ans, mon père me dit « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de fête? » J'ai dit « Je veux une paire de souliers. » Mais il a fait tous les magasins de la ville de Québec avec moi pour trouver la paire de souliers et on est retourné au premier magasin où on avait été, la première paire qu'on avait essayée.
Fait que tu viens de la ville de Québec?
J'ai grandi à Québec en partie, oui.
Wow! Et si tu avais à choisir là, entre des souliers à talons ou des souliers de course?
À talons.
Tu vois, Janilane, c'est plus une talon girl.
Classique.
On aime ça. Ça conclut notre segment Express Expresso. Merci, Janilane, d'avoir
merci
cette invitation.
Toi.
J'ai vraiment apprécié cette rencontre que j'ai faite. C'est la première fois qu'on se rencontre. Puis, il va y avoir sûrement d'autres rencontres. Et à ce moment-ci, là, on aime ça céder le micro à notre invité pour que tu puisses plugger tout ce que tu as envie de plugger, que ce soit ton podcast, peu importe. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Ce serait important que tu nous dises où est-ce qu'on peut, si on veut communiquer avec toi puis on veut requérir tes services, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver alors?
Très simple. Mon site hypnocoach.ca. Vous allez travailler avec moi. Il y a 30 minutes gratuits. Vous pouvez réserver 30 minutes gratuits avec moi. On discute de vos enjeux. Et puis, à ce moment-là, on voit est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas. Quand je travaille avec les gens, je travaille pas à l'heure, je travaille pas à la séance. C'est un montant et c'est un montant pour 3 à 5 séances. Et pendant ces 3 à 5 séances-là, on gère l'enjeu qu'on veut régler. Donc, c'est fort simple. Mais au départ, on se parle. On voit est-ce que oui ou non.
Il y a un match.
Peux vous aider? Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mon podcast. C'est juste une croyance. C'est Just a Belief. J'ai un podcast en français, un podcast en anglais. J'ai déjà 20 épisodes. Je suis vraiment contente. C'est un beau cadeau que je me fais, en fait. J'aime beaucoup partager des histoires de clients. Donc, j'ai justement Francis qui est sur mon podcast. Je vais te lancer l'invitation, évidemment, Angelo.
Oh my
à venir.
God!
À venir, merci. Évidemment, sur mon podcast. Et la troisième chose, j'ai un programme de groupe qui s'appelle Hypno 360, qui commence en septembre, qui est une cohorte de groupe. Et j'ai un programme qui s'appelle Queen Bee, dont je vais parler abondamment dans les mois à venir, où je travaille avec José Chouraoui-Marcou, qui est docteur en naturopathie. Et on a un programme ensemble combiné de services ayurvédiques et d'hypnose. C'est un programme VIP où est-ce qu'on prend une personne et on s'en occupe vraiment.
Queen Bee, Bee comme abeille.
Exact. Puis on a des savons merveilleux, puis des choses vraiment intéressantes.
Oh, intéressant. Donc, ça conclut notre segment. Merci Francis pour cette première émission. Et merci à tous d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. C'est toujours apprécié. Et là-dessus, je vous dis merci à la prochaine. It's a wrap.